Je suis la véritable trace, le plus solide des indices attestant de tout ce que nous avons vécu en 10 ans en Algérie. Je cache l'histoire d'une guerre entière, inscrite sur ma peau depuis que je suis enfant. Ceux qui savent lire comprendront en croisant le scandale de mes yeux et la monstruosité de mon sourire. Ceux qui oublient volontairement auront peur de moi et de me regarder. Ces mots, ce sont ceux de Fajr, Aube, la narratrice de votre dernier roman, Kamel Daoud, qui nous vaut l'honneur de votre présence ce soir. Ouri, pour ouvrir cette nouvelle édition des correspondances. Bienvenue à Manosque.
Merci. Bonjour. Merci.
Vous n'aimez pas les éloges, Kamel Daoud. Donc je ne vais pas rappeler que votre talent a retenu l'attention de l'équipe du festival qui vous a invité dès votre premier roman, Minotaure 504, paru en France aux éditions Sabine Vespizer en 2011, ni revenir sur le succès international, des traductions en 35 langues, de Meursault contre enquête, paru chez Actes Sud, Goncourt du premier roman en 2015, roman auquel Albert Camus n'est pas tout à fait étranger, et qui aurait pu donner lieu à une magnifique rencontre croisée autour des correspondances entre vos deux livres. Vous imaginez ? Kamel et Camus, sur la place de l'Hôtel de Ville. Les compliments vous embarrassent, alors je ne vous dirai rien de l'émotion, ni de l'impression si forte que vous nous avez laissée lors de votre dernier passage sur cette place avec Zabor ou les Psaumes, en 2017. Certains parmi le public sont restés saisi par l'intensité, la densité de vos propos, pendant quelques jours. Le lundi suivant, il y avait encore des gens sur la place qui étaient comme ça. Nous avons à peine retrouvé nos esprits, que vous voilà aujourd'hui avec un roman que la presse qualifie d'indispensable, de monument, de nécessaire. Prix Transfuge du meilleur roman français, sélectionné pour le prix Goncourt, sélectionné pour le prix Goncourt des lycéens. Un roman qui nous sidère, nous bouleverse, nous éblouit, nous révolte. Ouri, avec lequel vous êtes entré chez Gallimard, la maison d'Albert Camus. Quelle émotion particulière ça a été de franchir ce seuil de Gallimard.
Alors, bonjour, merci d'être... c'est émouvant d'être aussi nombreux pour les livres, pas pour ma personne. Je vais essayer d'être intéressant. L'arrivée chez Gallimard, pour moi, ça a été aussi un grand moment. Enfin... je ne sais pas comment traduire les choses. C'est aussi intense que d'entrer dans une librairie quand on a toujours manqué de livres, etc. Donc c'est la maison des ancêtres. C'est la maison où il y a les grandes signatures, les grands noms. Et c'est quelque part, ça vous pèse dessus. Ça vous pèse en termes d'exigence d'écriture et d'incarnation. C'est-à-dire on ne peut pas y aller pour ne rien faire ou pour rêver de faire des choses. On y va pour faire des choses et pour... écrire réellement et rendre hommage à la langue, à l'histoire, à la littérature. Je sais, je dis des banalités, mais j'arrive pas à trouver le mot juste pour l'émotion juste de cette époque, mais je pense que vous m'avez compris.
Ouri, c'est le roman de la décennie noire, cette tragédie nationale qui traversa l'Algérie entre 1992 et 2002. C'est le roman porté par la voix de Fajr, Aube, mutilé à l'âge de 5 ans par un couteau terroriste qui lui a tranché les cordes vocales et tracé un sourire éternel d'une oreille à l'autre. Aube s'est fait la promesse de retourner à l'endroit mort où toute sa famille a été assassinée. C'est aussi le roman d'Aïssa, avec lequel elle va cheminer et dont le traumatisme a généré une obsession pour les lieux, les chiffres et les dates. Alors avant d'entrer dans le roman, j'aimerais, Kamel Daoud, que vous nous situiez cette décennie noire en quelques lieux, quelques dates, quelques chiffres, pour que nous partions tous avec les données nécessaires à la bonne compréhension de cette rencontre.
C'est à la fois un exercice facile et difficile de parler d'une guerre. C'est difficile parce que cette guerre, elle est invisible. Et elle n'est pas invisible uniquement pour vous. Elle l'est aussi pour les jeunes générations en Algérie. C'est-à-dire, j'ai une fille de 15 ans qui n'ont quand j'ai fini l'écriture de ce roman, elle m'a dit, est-ce que c'est arrivé vraiment? Et c'est quelque chose qui bouleverse, parce qu'on se dit, lorsqu'on vit un moment intense de l'histoire, on se dit qu'il est évident, alors qu'il pose vraiment un problème de filiation et de transmission de la mémoire. Alors, qu'est-ce que la guerre civile? L'Algérie, c'est un pays, comme certains de vous le savent, qui est figé dans une sorte de récit métifié du décolonial. La guerre d'indépendance, et l'histoire s'est figée là. On est une sorte de produit dérivé du film La bataille d'Alger. C'est-à-dire qu'on est tous confinés dans ce rôle postcolonial éternel. Quand je suis, par exemple, sollicité par la presse anglo-saxonne, il m'interroge comme si je venais de finir de faire la guerre. C'est-à-dire comme si je venais de déposer mes armes, etc. Je ne suis pas vu à travers ma présence au monde, mais à travers une histoire. Donc on est toujours ramené à cette histoire-là. Et il est très difficile de dire aux autres que nous sommes vivants. Et que je suis né après, et que je suis véritablement vivant et indépendant, et que cette histoire, si elle est là, comme je l'ai dit dans un entretien, on n'habite pas les mémoires, on habite des maisons. Et c'est quelque chose de très difficile. D'autant plus que c'est ce qui fait que par la suite, on efface cette guerre, la deuxième guerre d'Algérie. C'est une guerre civile, bon, il n'y a pas d'autre nom, qui a duré de 1990 à 2000, qui a coûté à peu près 250 000 morts au bas mot, avec 1 million de déplacés, une destruction quasi totale des infrastructures du pays, et qui a commencé parce que les islamistes avaient gagné des élections, gagné entre guillemets, parce que le système était fait pour que le FLN gagne, et ça s'est retourné contre lui. C'est un système à la proportionnelle. Donc, le Front islamique du salut gagne les élections, un peu pour situer l'histoire, et les militaires annulent les élections, et là, c'est le commencement de la violence. Donc, on commence par des attentats contre les policiers, contre tout ce qui est uniforme, contre tout ce qui est officiel.
À l'aéroport d'Alger, fin août aussi.
Plus tard, on va vers les bombes, puis vers les attentats un peu plus. Et puis, on arrive au massacre de masse, c'est-à-dire des massacres de centaines de personnes par nuit. Et il faut imaginer 250 000 morts en 10 ans, c'est 2 000 morts par mois, pour avoir une idée. La fin de cette guerre s'est soldée par une politique dite de réconciliation, où les militaires et les islamistes se sont arrangés pour dealer entre eux. Les accords sont secrets. On ne sait pas sur quoi ils sont tombés d'accord. Et puis nous, le peuple, mortels comme nous sommes, nous avons été invités à voter par oui ou par non pour la réconciliation. Et cette loi de réconciliation, elle est très verrouillée. Elle interdit depuis de parler de cette guerre, d'en faire des livres, des films, des éditoriaux, d'en faire le récit, d'en faire la collecte, des témoignages, etc. Tout a été effacé, ça n'existe pas. Alors, bien sûr, il y a eu des films en Algérie, il y a 3 ou 4 films. Certains d'entre vous ont vu peut-être Papicha, le film, mais il a été interdit de diffusion en Algérie aussi. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est une interdiction totale de collecte de témoignages, de travail sociologique, de travail politique, de travail de mémoire, de travail de deuil, parce que les victimes du terrorisme et les terroristes eux-mêmes ont été mis sur le même pied d'égalité. Parfois, ils ont le même bureau, dans la même administration. Et souvent, les terroristes ou leurs familles ont une pension supérieure à celle des victimes, pour des raisons politiques. Donc tout ça a généré, au-delà du fait lui-même, une sorte d'absurde par la suite, ultérieure, dans la vie de... Pour moi, en tout cas, en tant qu'Algérien, c'était quand même hallucinant de voir quelqu'un circuler au soleil alors qu'il avait tué 200 personnes, et puis voir quelqu'un d'autre condamné à 3 ans de prison parce qu'il avait volé un téléphone. Ça portait atteinte à la cohérence du réel, à l'éthique de la vie elle-même, cette sorte de réconciliation qui était une sorte d'amnésie violente. Donc c'est ce que je voulais un peu raconter. Et le roman, il se passe dans cette période et après cette période-là.
C'est un récit qui revient sur cette période. Vous avez cité l'absurdité. C'est la trilogie de l'absurde qui est ouverte par L'étranger de Camus. C'était sa trilogie de l'absurde. Revenir sur ce terme-là, vous avez employé le mot de guerre civile, mais il y a quand même un vocabulaire qui se cherche encore pour définir ça, en tout cas en français. Moi, j'ai pu lire la décennie noire, j'ai pu lire la tragédie nationale, la guerre civile, la guerre intérieure. C'est une guerre qui cherche encore son nom. En arabe, comment est-ce qu'elle est nommée?
On lui a donné le nom de quelque chose qui déresponsabilise tout le monde. On appelle ça la tragédie nationale. C'est-à-dire, c'est venu des dieux, c'est pas venu des hommes.
Ça vous est tombé dessus.
Exactement. Et ça, c'est un vocabulaire très bien pensé, très bien pesé, je pense, parce que ça déresponsabilise tout le monde. Dans une tragédie, il n'y a pas de héros réellement, il n'y a pas de victimes. Les rôles sont un peu diffusés. Moi, ce qui m'intéressait au-delà de l'appartenance, c'est que l'enjeu, il est quasiment universel. C'est l'enjeu de la liberté, et puis c'est l'enjeu de la vie après la mort. C'est surtout là. Les religions ont le monopole, à juste titre ou à tort, souvent, de la question de est-ce qu'il y a une vie après la mort. Je pense que c'est une question que l'on doit creuser nous-mêmes. Et pour moi, l'enjeu de la survie après une guerre, c'est exactement cette question-là. Est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on a le droit de vivre? Et surtout, est-ce qu'on mérite de vivre après une guerre?
Ça fait un écho direct au terme que vous avez choisi comme titre, Houri. Que signifie ce terme-là et pourquoi l'avoir choisi en titre de votre roman?
En fait, l'histoire de la guerre civile algérienne, où on trouvera d'autres noms, d'ailleurs, c'est quand même étrange que l'Algérie qui reproche à la France de ne mal nommer la guerre d'indépendance, c'est que l'Algérie elle-même nomme mal sa propre guerre. Il y a une sorte de jeu de karma. Peut-être qu'il y a des Algériens ici, ils savent et ils portent comme moi une histoire. Chaque Algérien a vécu cette guerre, de ma génération, de la génération précédente, d'une manière intime. C'est-à-dire soit directement parce que j'étais jeune journaliste, reporter, soit indirectement parce qu'on y perd sa vie courante, on y perd son bonheur, soit d'une manière plus cruelle parce qu'on perd des proches, des fils, des filles, des mères, des gens qui nous sont importants, des gens que nous aimons. Et il y a des expériences que je vis depuis un mois et qui sont très émouvantes pour moi, c'est que quand je signe des livres dans les librairies généralement, les festivals, vers la fin, il y a toujours 3 ou 4 personnes algériennes ou algériennes d'origine qui viennent, qui me regardent et qui commencent à pleurer. Parce que je sais pourquoi ils le font. Parce qu'ils portent cette histoire dans le silence. Et il fallait trouver, pour moi en tout cas, un prétexte valable pour briser ce silence. Il n'est pas... Après un deuil, on peut gâcher le deuil par la parole quand elle n'est pas au bon moment. C'est ainsi. La parole peut guérir le deuil, mais c'est une parole précise. Elle est choisie au bon moment. Il faut qu'elle soit synchronisée quelque part avec le temps réel. Et pour moi, raconter cette guerre pendant longtemps, j'étais journaliste, donc j'avais beaucoup de matière, entre guillemets, en tête, et des scènes...
Oui, préciser que vous étiez journaliste pour le quotidien d'Oran. Oui. Vous avez suivi ces événements en tant que journaliste, jeune journaliste.
Comme tout le monde. À l'époque 90, c'était l'explosion de la presse indépendante en Algérie. Les rédactions recrutaient beaucoup, mais parce qu'on tuait beaucoup de journalistes aussi. Donc nous y arrivions tous à l'âge de 22 ans. 23 ans, on était recrutés immédiatement et poussés dans le champ de bataille immédiatement. On n'avait pas d'expérience et puis on était dans la naïveté, l'exaltation du métier. Ceux qui ont fait le reportage de guerre savent que ça crée une sorte d'addiction quelque part. Donc toute cette matière, elle était là, comme pour beaucoup d'Algériens, chacun a son histoire. Mais pour moi, il fallait trouver la voie la plus légitime. Et je ne pensais pas que c'était moi. D'abord, j'avais un moment décidé que ce serait une femme, parce que la femme porte, elle, les traces de la guerre d'une manière directe. Les femmes payent plus lourdement la guerre, surtout dans certaines géographies, que les hommes. Et il me fallait un prétexte pour le texte. Je sais pas, pour ceux qui écrivent dans la salle, on n'écrit pas parce qu'on le décide. On écrit parce qu'il y a une nécessité qui nous pousse à écrire et qu'il y a un impératif. Et pour moi, l'image d'une femme mutilée qui a perdu voix était la métaphore parfaite et en même temps la réalité parfaite pour raconter à la fois et l'histoire et la difficulté de raconter. Il y a des moments heureux où, pour un écrivain, c'est la bonne métaphore. C'est la métaphore juste. Hemingway, quand il manquait d'inspiration, il a écrit Le vieil homme et la mer. Le vieil homme, il était une fois un vieillard qui n'avait rien pêché pendant 99 jours. C'est lui-même qui n'avait rien écrit pendant 3 mois. Et pour induire, pour préciser que c'est une histoire d'écriture et d'inspiration, il a commencé par la clause universelle « Il était une fois ». C'est pour dire que... Donc, il y a des moments où les métaphores coïncident. Donc, à un moment... Je me suis dit, qui pourrait mieux raconter une guerre qu'une femme? Et qui pourrait mieux raconter la difficulté de raconter qu'une femme qui a perdu la possibilité de raconter?
Qui est donc muette.
Et qui est donc muette. Donc, il y a des moments où les choses s'alignent et le roman, pour moi, ce roman, je l'ai écrit en arrivant en France très, très vite. Ça, ce n'était même pas, parce que parfois, j'ai même l'impression de l'imposture, parce que je me dis, ah, mais il est bien écrit, il est mal écrit, il ne me plaît pas. Et alors que pour moi, je l'ai écrit quasiment sous dictée. C'était une dictée pour moi. Et après, quand j'ai fini ce roman, parce que ce n'est pas un roman de guerre, c'est un roman de vie. Et pour moi, il était important, parce que quand j'ai fini, j'ai su que j'avais une raison d'être heureux maintenant. Et c'était le plus important. On n'écrit pas uniquement pour le lecteur ou pour le succès, on le fait. on le fait. On écrit pour signer, on écrit pour vendre, on écrit pour expliquer sa vie, pour justifier sa vie auprès de ses parents. Hemingway disait qu'on écrivait toujours sur le regard de quelqu'un qui soit mort ou vivant, mais on écrit aussi pour se réparer. Et pour que cette aventure de la reconstruction du sens de la vie après le deuil, elle est universelle, elle est partageable et partagée.
On était parti du terme ouri, on va y revenir. Parce que votre narratrice, qui est donc une femme muette, il faut préciser aussi qu'elle porte une petite fille, qu'elle est enceinte, et qu'elle s'adresse à cette petite fille, elle l'appelle ouri. Donc c'est une des premières pistes d'explication de notre titre, mais je pense que c'est bien plus large que ça.
Ouri, ce sont les 72 vierges qui attendent les plus fidèles des fidèles au paradis et pour lesquelles des jeunes se font exploser et tuent le reste de l'humanité.
Les plus fidèles et les kamikazes.
Exactement. Donc, c'est un fantasme. C'est un fantasme morbide qui, pour moi, au-delà de l'humour, on en fait des caricatures sur les vierges qui attendent depuis 1 million d'années, etc. Mais la réalité, c'est une vision mortifère de la vie par contraste.
En creux et par défaut.
Exactement. Quand, au lieu d'aimer les femmes ici, nos mères, nos filles, nos femmes, au lieu de les aimer ici, qu'est-ce qu'on fait ? On tue pour aller de l'autre côté. Et c'est un peu ça. Ma femme m'a conseillé, parce qu'à un moment, je parlais trop, et elle me disait, cite cette phrase pour que les gens comprennent, c'est que ces gens-là veulent vivre avec des femmes au paradis et ils nous font vivre l'enfer ici. Et c'est, je pense, la meilleure formule. Donc, je voulais dans ce roman parler des femmes en général et m'accaparer ce terme de houri qui signifie très belle femme, aux grands yeux, etc., pour le ramener à notre propriété.
Vous dites, les vraies houris sont celles que nous voyons tous les jours, pas celles que nous espérons après la mort. Houri, c'est bien. Moi, j'ai vu aussi qu'il y avait une autre racine possible, c'était our, qui veut dire blanc, et il y aurait une piste du côté des raisins blancs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui tient ou pas du tout ? Est-ce que c'est une autre interprétation possible ?
Non, ce n'est pas ma spécialité. il
Parce
est
que
dit...
72 raisins blancs, ce n'est pas du tout le même scénario,
non.
Du coup.
Non, il est dit que ça procède... Enfin, l'origine du mot, c'est le syriaque ou l'araméen antique et que ça signifie grappe de raisin. Et c'est encore plus tragique. Parce que si on arrive à tuer l'humanité pour une grappe de raisin, c'est encore plus tragique.
Dernière chose, est-ce que c'est le ouri, on prononce pas le S du coup, est-ce que c'est un pluriel francisé ou est-ce que c'est le pluriel arabe, est-ce que c'est pas ouriyat au pluriel en arabe?
Je suis pas un ouriologue, mais oui, bon, ouri, ça c'est un mot qui existe en français aussi. Donc en arabe c'est huriyat ou hurlain, ça c'est autre chose. Enfin c'est la même chose mais vu de l'autre côté, mais bon c'est un pluriel.
On a parlé de ce sourire éternel de Aube. Moi, dans Ouri, je voyais aussi quand même pas très loin le mot souris, dont le S de serpent aurait été par une hache aspirée.
D'accord.
Le H est muet en français, Ouri.
D'accord.
En arabe, Houri, il est quand même plus chargé de souffle. Je voudrais vous entendre sur cette narratrice muette. Vous écrivez un roman contre l'oubli pour donner une voix à ces gens qui ont été victimes, qui n'ont bien souvent ni eu de prénom, de nom, de sépulture, de tombe, de funérailles. Pourquoi l'avoir choisi muette pour porter cette voix ?
Parce que, comme je disais tout à l'heure, je voulais raconter deux choses. Une histoire et l'impossibilité de la raconter. Donc pour moi, c'était évident. Et ce sont aussi des femmes que j'ai rencontrées et des hommes mutilés. Il faut imaginer cette guerre, je sais que c'est peut-être difficile, comme étant une guerre totalement niée, c'est-à-dire elle n'existe pas. Elle n'y a pas. Il n'y a pas de monument quasiment, il n'y a pas de timbre poste, il n'y a pas de billet de banque, il n'y a pas de commémoration, il n'y a pas d'hommage, il n'y a rien. Tout est effacé. Et la narratrice Aube, elle se promène, justement, elle dit, puisque personne ne veut me voir, je fais ce que je veux, parce que moi je reviens de la mort. Elle a la liberté des gens qui reviennent de la mort, quelque part. Et en termes narratifs, dès le début, je me suis dit, raconter une guerre d'une manière linéaire, ça ne fonctionne pas. C'est un peu la vidée de sa tragédie. Alors, je me suis toujours posé la question, quel est le plus profond dialogue qu'un être humain peut avoir ? On en a beaucoup, on pense que c'est le dialogue ultime, etc. Le dialogue d'amour, par exemple. Mais... pour moi, il y avait un moment que certains d'entre vous ont connu, c'est le moment de fin de vie, quand on tient la main à quelqu'un qui, 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 qui se prépare pour le grand voyage. Et les mots deviennent précis, les mots deviennent ultimes, les mots deviennent importants. Ils peuvent réparer 40 ans de silence, une phrase. Et ces moments-là, pour moi, étaient les plus lourds. Et je me suis dit, quel est le pendant de ce moment? C'est le premier moment, quand une femme porte la vie dans son ventre et qu'elle commence à adresser les premières paroles à la vie dans son ventre. Et je me suis immiscé, peut-être par infraction, dans cet espace-là. Et j'ai imaginé ce dialogue d'une femme muette qui parle pour la première fois à voix haute à la vie qu'elle porte en elle, alors qu'elle, elle croit qu'elle représente la mort. Et à partir de ce moment-là, le récit se construit. Parce que quand on parle à l'enfant qu'on porte dans son ventre, ce sont les premières paroles. Et elles doivent être les plus belles. Elles doivent être les plus importantes aussi. Elles sont aussi importantes que les paroles d'adieu. Ce sont les paroles de bienvenue. Celles qui restent à vie. Il est dit que l'enfant garde souvenir des premières mélodies, des voix, des ambiances sonores autour et de la voix de la mère. La voix de la mère ne nous quitte pas. Elle est toujours là.
C'est mystérieux de parler à une personne qui ne connaît pas ce pays, qui se trouve de l'autre côté de la palme du ciel, prisonnière d'autres lois, d'autres saisons, qui en sait peu sur moi, à part mes palpitations cardiaques, mes pas ou mes humeurs, qui m'accompagne à l'aveuglette, qui se hasarde dans ma nuit mal éclairée, qui tend l'oreille pour m'entendre quand le monde devient trop tapageur. Une personne comme toi qui n'a jamais atteint la terre, qui ignore si le ciel se trouve en bas, en haut, et ce qu'est le brasier du présent. Pour commencer, peut-être faudrait-il te choisir un prénom tant qu'on demeure ici toutes les deux, toi enchaînée, moi folle de prendre la route. Je m'appelle Fajr, aube, tu le sais. Quant à toi, je t'appelle Ouri, mais ne t'y habitue pas, pour le peu qu'il te reste à vivre. Ça, c'est un élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que certes, elle porte cet enfant, mais tout le long du roman, elle n'est pas sûre de le mettre au monde.
En fait, la situation qui se pose pour aube est très simple. Elle croit qu'elle ne mérite pas la vie parce qu'à un moment, quand elle avait 5 ans, quand ils ont égorgé toute sa famille et toutes les tribus autour, elle a été à moitié égorgée, elle a fermé les yeux pour jouer aux mortes. Donc le tueur s'est déporté sur sa sœur qui l'a égorgée. Donc elle survit, comme tous les survivants, avec le sentiment profond de ne pas mériter la vie et d'être la mort quelque part. Elle le dit à sa fille, elle lui dit parfois on tue juste en fermant les yeux. Et donc, quand elle tombe enceinte, la question est pour elle, est-ce que je garde cet enfant ou est-ce que j'avorte? Parce que pour elle, avorter, c'est sauver la vie de sa fille. Elle lui dit, ce n'est pas un destin que d'être femme dans ce pays ou dans d'autres pays. Et si je te tue, c'est par amour, c'est pour te sauver. Et d'un autre côté, c'est une mère. Donc, elle est dans cette mission immémoriale de donner la vie. Donc, elle ne sait pas, et le roman commence avec cette ambiguïté. Est-ce que je tue par amour pour la sauver ou est-ce que je la garde? Et la garder pour venir où? Dans ce pays qui nous tue, qui nous viole, qui nous habille, qui nous enterre? Pourquoi? Et c'est une question légitime. Et le roman, il est construit sur ce dilemme et la décision de partir vers le lieu du massacre pour appeler les morts à arbitrer quelque part, pour dire qu'est-ce qu'on choisit. Parce que ce n'est pas une question aussi accessoire qu'on le pense. Il y a des moments où on se dit pourquoi on doit ramener de ce néant des enfants dans un monde qui n'en veut pas. Est-ce que c'est leur rendre service? Est-ce que les obliger à cette aventure douloureuse et heureuse à la fois et flamboyante et étincelante, est-ce que c'est quelque chose? Et puis, si on est une femme, l'enjeu est immense. Ce roman, il est paru quand même la semaine où les talibans ont promulgué des lois interdisant aux femmes de parler à voix haute et de rire dans les rues. C'est-à-dire, on n'est plus dans le symbolique, on est dans la réalité de la condition de la femme maintenant. Et donc, Hope se pose la vraie question, est-ce que j'ai raison d'accoucher encore une fois d'une autre femme qui va vivre encore le même destin que moi?
Elle lui dit, c'est une guerre que de vivre, Maori. Et effectivement, ce que vous évoquez nous invite, nous, à réinterroger le vocabulaire sous toutes ses formes, à prendre certains mots et à les regarder dans différentes réalités. Vous évoquez par exemple le mot jupe. Chez nous, une jupe, ça va dépendre de la journée qu'on a à passer. Est-ce qu'on est au travail, à la maison? Quelle est la météo? Quelle longueur? Quel confort on a envie d'avoir? Une robe à fleurs trop courte décide de ta vie, lui écrit-elle, lui dit-elle. Donc ce même mot-là, jupe, n'a pas du tout le même écho, le même poids d'un côté et de l'autre de la Méditerranée.
C'est, en France ou ailleurs, c'est parfois difficile de raconter le reste du monde. Parce que c'est normal, on est chez soi, on s'entoure de sécurité, on s'entoure de préjugés ou de clichés qui sont bons aussi. Les clichés sont des lieux de connaissance, contrairement à ce qu'on croit. Et si vous dites qu'il existe des territoires où des imams prêchent, je l'ai entendu, qu'une femme non accompagnée par un homme n'a pas le droit d'acheter un parfum, ou bien que s'il y a des séismes et des sécheresses, c'est parce que les femmes portent des pantalons. Je sais, ça fait rire, mais ça tue aussi. Et ce n'est pas une plaisanterie, je veux dire, cette idée, elle est immémoriale. Pour le moment, elle est portée par les géographies du Sud, mais revenez 3 siècles en Occident, on était là. On brûlait des femmes au nom de la sorcellerie. Donc, cette pensée magique, morbide, elle est réelle. On accuse les femmes de tout, de sécheresse, de séisme, de fin de monde. Et une jupe, ici, elle dépend, comme elle le dit, elle dépend du climat. En Iran, c'est une question de vie ou de mort. Les choses, il y a des géographies où les choses s'inversent. En Algérie, par exemple, ou dans le Maghreb, en règle générale, je sais, j'ai connu des mères qui, quand elles voient le beau temps près de la mer, ont peur. Parce que quand il y a le beau temps, c'est là où les jeunes prennent des chaloupes pour partir. Et donc, ils peuvent mourir. Et ce beau temps qui, ici, est vendu comme un luxe incroyable, il y a des géographies où il signifie la mort pour les mères et la perte de quelque chose de très précieux. Le monde parfois inverse les choses. Et le vêtement de la femme est devenu, même ici, un enjeu. Un enjeu totalement disproportionné par rapport à la propriété du corps. Bah, une femme, elle est propriétaire de son corps. C'est facile de le dire, mais on l'oublie. Il y a des géographies entières où la femme, elle est à peine locataire de son corps. Et locataire indésirable.
Oui, il y a des événements là, tout à fait actuels qui nous rapportent bien ça, que parfois la femme n'est pas tout à fait propriétaire de son corps. Pour prolonger votre propos, j'ai envie de vous lire cette scène qui est à la fois drôle et terrifiante, puisqu'il y a les deux souvent dans vos pages. Une scène qui se passe entre le salon Scheherazade que tient Fajr, dans lequel elle travaille, et la mosquée qui est juste en face. Et ça donne lieu parfois à des scènes assez marquantes. La guerre entre mon salon Scheherazade et la mosquée du Cercueil, c'est ainsi que je la surnomme, je t'expliquerai pourquoi, fut déclarée un vendredi il y a 2 mois. L'imam éleva la voix et, fumant ma cigarette à la fenêtre de ma boutique, je l'imaginais juché sur son mihrab, l'autel d'où il domine dans la salle des prières, les hommes assis tête baissée. Il récita, penché sur un registre, des blasphèmes fabuleux. 10 femmes sont exclues de la miséricorde de Dieu. Nous étions 11 dans le salon, en comptant mes 2 employés. La cité sans arbres exhalait un petit sirocco de sable qui effaçait les immeubles nus comme des pierres de cimetière. 1. La femme tatouée. Et la voix de l'imam se brisa face à un scandale inouï. D'un coup, dans notre tranchée parfumée, on se tut toutes, clientes et coiffeuses, comme dans un tribunal, pour écouter la suite. Personne n'osa me regarder à ce moment-là, mais toutes pensèrent au poisson, au cheval, au ruisseau dessiné sur ma peau blanche. Le bruit du sèche-cheveux dans les mains de Hanan s'éleva pour contrer le prêche. 2. La femme qui s'épile les sourcils. Et là, la voix de l'imam s'octroya un silence pour permettre à chaque fidèle de chercher dans ses souvenirs le visage d'une proche à maudire, une épouse, une fille ou une voisine. Puis il eut, dans un chuchotement de savants agacés, un 3e verdict. El Wasila et El Mouta Wasila. Qui est cette femme damnée au double prénom mystérieux? Chacun scruta les traits de l'autre dans mon salon de coiffure pour essayer de comprendre, mais l'imam précisa. C'est la femme qui s'allonge les cils ou les ongles. Et nous toutes, de l'autre côté de la mosquée, femmes cachées et résistantes, on s'esclaffa devant notre ignorance. D'un coup, le salon jubila. C'était une joie de rébellion et de rire puisée dans l'enfance de chacune, d'avant le sang des menstrues. Et aussi la non-voilée, ajouta l'imam. Et je jure que nous toutes, ici, nous ressentîmes un frémissement qui traversa la ruelle, celui des hommes excités par l'envie de corriger les femmes insolentes dont les cheveux nus empêchaient les bonnes récoltes. Avec ma casquette, mes chaussures de sport et mes pantalons, je fus débusquée dans la 5e catégorie, celle des femmes qui veulent ressembler à des hommes. Qui est El Moutafa Lidja ? Interrogea ma cliente, nouvelle mariée, qui attendait les effets de sa teinture aux racines. Et tout on s'immobilisa, suspendu aux lèvres géantes du haut-parleur de la mosquée d'en face. « Oh, que Dieu nous en protège !» s'écria l'imam faussement ému. « Voici ces femmes qui arrangent leurs dents, celles que Dieu leur a données à la naissance dans sa générosité. Je peux te le raconter à toi, mon intruse. Je ne pensais pas que cette divinité qui est tous les hommes à la fois pouvait pousser la haine de nos corps jusqu'à nous interdire de soigner nos dents tordues. Pourquoi cette jalousie, même quand nous sommes laides ? À nos malheurs, l'imam joignit ensuite les femmes qui visitent les tombes, celles qui hurlent dans le deuil, celles qui mettent en colère leurs époux. et aussi celles qui se parfument en sortant, celles qui ajoutent des tresses à leurs cheveux, celles qui se promènent les chevilles nues. Et l'imam continua et continua encore jusqu'à ce qu'il ne reste rien, d'aucune femme, pas une trace, pas un cheveu, que du sang sur des mâchoires de loup. Que des ombres poilues, des silhouettes muettes et des mortes aux voix douces pour dire oui à l'homme. Et dans le salon, après le rire féroce, on resta plongé dans un silence de rescapé, je te le jure. Pas seulement inquiète, mais stupéfaite. Pourquoi ce Dieu nous hait-on ? Qu'avons-nous fait pour le mettre en colère depuis 3000 ans ? Lui avons-nous volé la maternité du monde, le pouvoir d'accoucher et d'allaiter ? Lui avons-nous ravi le cœur des hommes ? Mon salon de coiffure était devenu une tanière de louves apeurées, de ventres clandestins. Vous avez évoqué cette volonté de mettre la femme au centre de votre roman. Elle est narratrice, elle porte une autre voix, une autre vie de femme en puissance potentielle. Est-ce que ce dispositif ne vous permettait pas aussi, finalement, à travers, grâce à l'innocence, à la naïveté, à l'ignorance de cet enfant, d'accueillir tous vos lecteurs dans ce roman ? C'est-à-dire que c'était une façon de nous raconter ces événements sur lesquels on ne sait quasiment rien.
Alors, juste pour la précision, le passage cité, c'est un vrai prêche. Ce n'est pas de mon imagination. C'est des choses qui sont dites et qui sont là. Et on le sait tous, même si on le tait. Alors, le procédé d'écriture, oui, c'est... le lecteur, c'est quelqu'un qu'on invite dans un univers. Et je me suis dit à un moment, je vais faire en sorte que l'enfant qui est dans le ventre, qui est dans le noir, qui ne sait rien de ce pays-là, soit aussi le lecteur, quelque part. Parce que c'est ce que dit Hobbes, je suis un livre dont la fin sera la tienne. Et bon... C'est des mécanismes de narration qui permettent de garder l'intérêt du lecteur, mais aussi de dire des choses. Et bon, parfois, ce sont des moments heureux d'écriture, quand vous arrivez à cerner la bonne métaphore, et que la métaphore n'est pas gratuite, mais qu'elle en devienne essentielle. Et c'est important. Ça permet de revisiter la langue, d'en faire un bel usage. Et pour que la langue soit belle, il faut qu'elle coïncide. Je suis un amoureux de la langue. Et quand on dit des choses, j'aime imaginer qu'on le dise avec tout le corps. Et que ce soit sensuel, que ce soit beau, et que ce ne soit pas seulement utile.
Vous dites, la langue, le style, c'est la rencontre entre le dictionnaire et notre propre corps. Comment est-ce qu'il a été engagé, votre corps, dans l'écriture de ce roman-là ?
Moi, je suis journaliste, c'est-à-dire je suis façonné par l'idée de deadline, de remise de texte, etc. J'écris comme on court. Je crois que le style, c'est la respiration. On scande et on rythme l'écriture comme on respire. Donc, j'écris très vite, mais je conçois le texte avant. Donc, c'est une manière un peu de... Je dis souvent que je suis un grand paresseux. Et les paresseux travaillent beaucoup pour pouvoir vivre quelques moments de paresse sans culpabilité. C'est une équation très perverse. Mais elle est réelle. Ce qui fait que je travaille énormément, mais avec une profonde passion pour ces moments où je ne fais rien. Mais je ne fais rien absolument et en toute innocence retrouvée. Vous me suivez? Donc, c'est un peu ça. Et l'écriture, il faut la sentir. Il faut vraiment la sentir. Je dis toujours à mes étudiants, l'ennui est contagieux. Si vous vous ennuyez à écrire, le lecteur s'ennuiera. C'est immédiat. Il faut y croire en ce qu'on... Les prêcheurs le savent, d'ailleurs. Ils investissent tout leur corps dans leur prêche. Vous voyez, le revival américain, par exemple, vous sortez de l'église ou de la mosquée ou du temple avec l'idée que vous avez rencontré Dieu, alors que ce n'est qu'un fonctionnaire. Donc, quel est le miracle ? C'est la langue et la métaphore. Il faut y mettre des choses qui font qu'une salle comme ça peut vous écouter pendant des heures et elle ne le sait même plus.
Vous avez tous endormi. Il y a évidemment la langue, il y a les images, il y a la métaphore, mais il y a aussi les jeux avec les mots. Je vous lis ce court passage pour illustrer ce que j'avance. La nuit du 31 décembre 1999, les katibas des groupes islamiques armés avaient décidé de nous punir. Les hommes du jour aussi, à leur manière. On nous avait coupé l'électricité un mois auparavant en nous accusant de la fournir aux terroristes pour qu'ils fabriquent les bombes et soudent les pièces. On nous laissa entre le noir et le soleil froid. Je me suis arrêtée sur cette phrase en me disant « Bon, soleil froid, c'est quand même un oxymore qu'on connaît bien. » Mais là, vous le doublez, ils sont entre le noir et le soleil froid. Comme si vous faisiez le soleil être entre le noir d'un côté et le froid de l'autre. Un double oxymore. une figure de style dans laquelle on entend oxy et mort. C'est sans doute la plus adaptée pour ce genre de texte.
Le roman, il ne faut jamais oublier, c'est un monologue intérieur, enfin c'est un dialogue. Et à l'intérieur de la tête, Faulkner le fait avec génie, James Joyce l'a fait avec brio et avec un énorme talent. La langue n'est pas ordonnée comme à l'extérieur. À l'extérieur, on conjugue, on polie, etc. Moi, j'ai eu une chance, c'est que j'ai commencé à apprendre le français seul. Et mon père m'a offert mon premier dictionnaire et mon premier livre à l'âge de 15 ans. Donc j'ai rencontré les lois de la langue plus tard.
Vous avez appris le français en lisant seul.
En lisant, oui. Et donc, les mots ont gardé cette charge mystérieuse, cette charge forte, cette charge d'ombre et d'énigme. Donc, c'est pour ça que la langue est importante. J'ai perdu le fil avec les...
Oui, vous êtes perturbé par les talkie-walkies, je le sens. Et la langue est chargée.
Oui, elle est chargée. Et donc, il faut concevoir le monologue dans la tête de Hobbes, comment il se fait. Les images sont différentes. Je disais hier, par exemple, qu'on parlait de qu'est-ce qu'on ressent. On a tous vécu ça, vous savez. On perd nos parents, par exemple, et au bout de, après la cinquantaine, l'âge des premières conclusions, et on retrouve les gestes de nos parents dans nos propres gestes. On retrouve la voix de la mère dans les gestes de l'hygiène, comment on se lave le corps, parce que c'est elle ou lui qui nous a enseigné les premiers gestes. Même à 60 ans, même à 70 ans, on se lave les dents en pensant à sa mère ou à son père. C'est quelque chose de fou, mais ça existe. On met énormément de temps pour se connaître, identifier ses rêves, ses vrais rêves, en toute propriété, et savoir qui on est. Et donc la langue, pour la rendre indépendante et la rendre brillante, je voulais lui garder cette charge d'obscurité, de singularité, de flux. On ne parle pas poliment dans sa langue. On parle avec ferveur, avec violence. On froisse les pages, les mots. On compose des mots valises. La langue est vive quand elle est dans la tête. Donc je voulais rester... Bon, je ne voulais pas publier un roman qui soit comme l'écriture des médecins à l'époque. Mais je voulais aussi garder cette forme de naturel, de confusion lumineuse.
Joli oxymore pour finir. On a évoqué, le mot charge revient souvent, la langue est chargée. On peut en venir à cette question du poids. Vous avez cette très belle phrase que vous écrivez dans la langue, dans la bouche d'Aïssa. Aïssa, lui, il a été sauvé parce qu'il trimballait des livres dans sa camionnette. Il avait une cargaison de livres et les terroristes lui ont laissé la vie sauve avec ces livres-là. Mais il dit, les livres qui n'existent pas sont les plus lourds. C'est quelque chose qu'on peut entendre aussi dans vos propos à vous. Quel poids il a eu ce livre-là avant de naître, avant d'arriver, avant de sortir, et quel poids est-ce qu'il a aujourd'hui ?
Alors, Aïssa, c'est un personnage que j'ai créé au milieu de cette histoire. C'est un homme, et c'est un homme qui se souvient de tout, contrairement à tout le pays. Sauf que personne ne croit son histoire. C'est un peu, je le dis souvent, une sorte de Cassandre du passé, plutôt du futur. Et c'est un homme que j'ai vraiment rencontré. Et c'est un libraire. Et il raconte l'histoire avec un peu d'ironie, d'humour, parce que la tragédie a aussi son côté d'humour. Début de la guerre civile algérienne, les islamistes manifestaient dans les rues en criant « cousina », c'est-à-dire les femmes à la cuisine. Et à la fin de la guerre, la loi d'amnistie préciser que sont exclus de l'amnistie tous ceux-là qui ont déposé des bombes, ils ont du sang sur les mains. Donc il a été donné instruction à tous les repentis, on les appelait comme ça, de se présenter comme des cuisiniers. Donc quand on les interrogeait, moi je les ai interrogés, c'était des salles comme ça, et chaque fois, mais vous faisiez quoi au maquis ? Cuisinier. Et vous, cuisinier. Et on avait des milliers de cuisiniers en Algérie. Et c'était quand même l'ironie de l'histoire. Ceux-là même qui disaient aux femmes, la cuisine, en 90-92, ils sont là. Et donc lui, c'est un libraire qui tourne un peu en Algérie et qui vend des livres de cuisine. Et quelqu'un qui se souvient de tout. Alors, ce sont des gens que j'ai connus, plusieurs, mais la tragédie de ce personnage, elle est réelle aussi. Tout ce roman est réel, malheureusement. Dans les années 90, dans une petite ville à côté d'Oran, Belabès, dans un petit village, il y avait un bus qui transportait chaque matin des enseignantes. C'était des jeunes filles de 20 ans, 22 ans, 23 ans. Elles enseignaient les enfants dans les petits douars un peu dans les montagnes. Et un jour, ils se font arrêter à ce qu'en Algérie, pour ceux qui le savent, ils le savent très bien, les faux barrages. Donc ce sont des terroristes qui les attendaient et ils les ont fait descendre une à une pour les égorger. Donc vous pouvez trouver leurs photos, les 11 enseignantes, c'est lourd. Sauf que les terroristes, d'ailleurs leur chef s'appelait Loup Affamé, comme dans le roman d'Ibiljian, et il a laissé le chauffeur vivant, il lui a dit « va, raconte ». Et c'est cette histoire-là qui m'a poussé. Vous savez, c'est plus de la monstruosité, c'est au-delà. Va et raconte. Pour que tout le monde sache qui je suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que nous faisons.
Et ça se propage.
Et ça se propage et crée de la terreur, quelque part. Et donc Aïssa, c'est cet homme-là qui, au début, disait que moi, son père était imprimeur de la vieille tradition, imprimeur et libraire, qui n'aimait ni lire ni écrire et qui disait finalement, les livres sont vengés de moi. Parce que maintenant, j'ai une histoire. Mais je ne sais pas écrire pour pouvoir la raconter. Et c'est un fils de libraire qui a tout ces... Moi, je ne vais pas raconter tout le roman, mais qui est là en une sorte de contrepoids, faux contrepoids à Hobbes, elle qui, dont personne ne se souvient, mais lui que personne ne croit.
Lui, il est hypermnésique. On va revenir à la charge du roman, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, mais on prolonge sur Aïssa. On prolonge sur Aïssa. Aïssa, il est hypermnésique. Effectivement, lui, il a gardé comme forme de traumatisme une obsession, je le disais en introduction, pour les chiffres, les dates et les lieux. Et donc, régulièrement, en transportant Aube dans sa voiture, il lui demande de lui donner un chiffre. Donne-moi un chiffre. 6. 6 janvier 1997. Massacre de citoyens à la cité des Oliviers à Daouda, Tipaza. Bilan 23 morts. Parmi les victimes figurent 3 enfants et 6 femmes. Un autre chiffre, 17. 17 février, dans le hameau de Kerach, à 50 km d'Alger, les terroristes islamistes d'Antar Zouabri massacrent 31 personnes. Dans un communiqué, celui-ci revendique le massacre et corrige le nombre de victimes, qu'il dit être de 41 et non de 31 comme annoncé dans la presse. Tu vois ? Un autre, 24. 24 décembre 1994, prise d'otage lors du vol Air France à l'aéroport d'Alger. 3 victimes. Kamel Berkane, inspecteur de police, SWPJ, service Wilaya, police judiciaire d'Alger. En congé, il était passager. Yannick Beugnet, 28 ans, cuisinier de l'ambassade de France en Algérie. Bing Jiangto, conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam. Tu vois ? Et là, c'est un dispositif très efficace pour rappeler les événements dans leur précision chiffrée. Est-ce que c'était une manière pour vous qui avez collecté en tant que journaliste toutes ces données-là, qui n'avaient peut-être pas toujours pu les faire paraître, parce que parfois les chiffres étaient revus à la baisse, les données étaient amoindries, modifiées. Est-ce que c'était une façon, à travers Aïssa, de rétablir ça ?
Je ne sais pas si on peut rétablir avec un roman toute une histoire. Ce sera un miracle.
Au moins dans votre parcours à vous.
Oui. Et les extraits que vous avez lus, ce sont des extraits vrais. Mmh. C'est-à-dire, ce ne sont pas inventés, ce sont des choses qui sont réellement passées. Mmh. Et l'enjeu des chiffres, il est là. Antar Zouabri, qui était un des émirs les plus sanguinaires, la presse publie 31, lui, il dit non, c'est pas 31, c'est 41 ou 43. Donc, il y avait un enjeu des chiffres qui était immense aussi. À l'époque, quand on finissait dans les rédactions de quotidien, on a une réunion à midi pour décider du journal un peu, et vers 18h, c'est pour fixer la une, etc. Et on avait des réunions qui étaient houleuses, parce que les chiffres des massacres, c'était un enjeu. Est-ce qu'il fallait donner le vrai chiffre et jouer le jeu de la terreur, ou est-ce qu'il fallait donner les faux chiffres et ce n'est plus du journalisme ? Et c'était un enjeu pour beaucoup de journalistes de donner les vrais chiffres. Et à force, le réel disparaît, les chiffres disparaissent. On ne savait pas qui était qui, quel était le nombre des morts. Et chacun avait sa recette. Il y a des gens qui avaient des relais dans les... Moi, mon humble niveau, ce n'était pas le reporter de cette guerre, il y en avait beaucoup mieux que moi. J'allais vers les médecins légistes ou vers les laveurs de morts, parce que eux, c'était une source. Mais même là, à partir de 1995, les tués étaient réduits en morceaux. Donc on ne savait pas combien étaient morts. Et parfois, ils arrivaient dans des endroits où les gens n'étaient pas inscrits à l'état civil. Donc on ne savait pas. Et quelque part, le chiffre se perd. Et Aube, elle est obsédée par le chiffre parce qu'elle dit que c'est le fondement de l'exactitude, j'allais dire de la vérité, mais Yourcenar disait dans « Mémoire d'Adrien », je crois, qu'à la vérité, elle préférait cette chose plus humaine qui est l'exactitude. Et l'enjeu du chiffre était important. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs. 200 000, 250 000. La fin du roman, elle paraît... J'aime pas ce mot métaphorique, parce que vers la fin, un imam lui dit « Pourquoi tu es venu dans ce village remuer le passé ?» Ici, les gens ne savent pas qui ils sont. Bon, pour un étranger, ils vont se dire « Ah oui, Kamel Daoud utilise une métaphore, la fin de la guerre, un peu le trouble. » Non, c'est que véritablement, quand il y a eu le massacre de 1000 personnes à l'époque, les gens qui ont fui les massacres et les gens qui sont descendus des montagnes pour fuir d'autres éventuels massacres, ce sont, parce qu'il y avait l'aide de l'État, etc., se sont eux-mêmes présentés parfois avec des identités des morts. Et ils sont restés avec ces identités par la suite. Donc, au fond, on est dans une sorte de post-guerre où les noms et les filiations ne signifient pas grand-chose. Vous êtes dans un village où les gens vous disent « moi, je suis fils d'eux », mais lui, il s'est accaparé cette identité en se présentant comme le frère du mort parce qu'il recevait de l'aide. Est-ce que c'est immoral ? Eux-mêmes savaient qu'ils allaient être tués demain ou après-demain. Et est-ce qu'on aide quelqu'un qui est déjà mort ou quelqu'un qui évite de mourir en volant le nom d'autrui ? Enfin, il y a un trouble du réel.
Et de l'identité.
Et de l'identité qui peut paraître ici comme une sorte d'apothéose macabre du réel, d'un roman. Mais en fait, c'est la réalité. Les gens, à un moment, perdent leur identité.
Ils pouvaient se choisir leur prénom. Il lui dit, tu peux être qui tu veux, tu peux choisir ton prénom.
Exactement, mais garde-le, mange avec, nourris-toi avec ce prénom et tais-toi. Parce que un roman n'est pas un réquisitoire contre une religion, contre quoi que ce soit. Parce qu'il pose des questions. Est-ce qu'il a raison ? Peut-être aussi. L'imam qui lui dit ne remue pas le passé, peut-être qu'il a raison. Et on se pose la question. Et un roman est construit sur l'ambiguïté de la réponse. Quand un héros dans un roman a trop raison, le roman ennuie. Il faudrait que l'antagoniste puisse présenter des arguments forts, des arguments qui nous interpellent, nous. Parce que c'est bien beau de dire « Ah, mais demain, je vais m'engager dans la guerre, je vais te défendre, etc. » Ça ne suffit pas. Ça, c'est parce qu'on a un bon canapé, qu'on a de grandes idées. Mais la réalité, dès qu'on sort dans le froid, et que la décision, il y a des moments dans la vie où on prend des décisions en connaissant à la virgule près
ce que ça implique,
ce que ça coûte. Et le courage, c'est d'accepter le tarif du courage et d'y aller en sachant ce que c'est. Alors, est-ce que ceux qui n'y vont pas sont des lâches ? Non, ce sont des êtres humains. Et tout cela rend la fin d'une guerre complexe et comment s'en sortir d'une manière honorable. Ce sont des choix éthiques, c'est des choix moraux.
On arrivait à la fin d'une longue guerre et les temps comme les sens gisaient confus dans le pays. Qui tuait qui ? Les émirs se massacraient même entre eux, les uns parce que désespérés de Dieu et de sa promesse, les autres ravagés par les trahisons et les soupçons sur leurs compagnons d'armes. Je voudrais revenir à la charge, au poids, parce que cette phrase d'Aïssa m'a marqué. Les livres qui n'existent pas sont les plus lourds. Vous avez dit dans un entretien que vous aviez commencé par être journaliste, d'abord pour des raisons économiques, parce qu'effectivement, on peut difficilement vivre de sa plume en commençant, donc au moins le journalisme était un peu rémunéré. Mais vous aviez été journaliste en attendant de pouvoir être romancier. Est-ce que vous avez attendu longtemps de pouvoir écrire ce roman-là, qui serait interdit dans votre pays ? Quel poids il a été tant qu'il n'existait pas ? Et aujourd'hui qu'il existe, quel est son poids ?
Bon, il a pesé, comme pour chaque Algérien, cette histoire existe. Elle est là, d'une manière ou d'une autre, je le disais au début de l'entretien, c'est quelque chose qui pèse dans la vie de chacun. Il a fallu pour moi de la distance et de la liberté pour pouvoir l'écrire, oui. Mais pas de la liberté strictement politique. Le sens de mon liberté prend un sens beaucoup plus large pour un écrivain. Les gens autour de vous qui vous aiment et qui vous disent « arrêtez d'écrire parce que c'est risqué, parce qu'il suffit d'un talkie-walkie qui fait du bruit et on arrête d'écrire et de parler même », c'est aussi quelque chose qui atteint la liberté. Un écrivain a besoin de soit d'être sécurisé totalement dans une prison où les choses sont claires et d'écrire, s'il le peut, soit d'être dans un pays libre et d'écrire. Mais il y a des moments où la terre tangue et vous ne savez pas qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mahmoud Darwish, le poète palestinien, avait cette formidable phrase. Il disait à une journaliste israélienne, « La politique chez nous est un des noms du destin ». C'est-à-dire, c'est quelque chose de plus global, le politique. Ce n'est pas uniquement des gens qui vous surveillent ou qui écoutent votre téléphone. C'est un tout. Même les gens qui se battent au nom de la liberté et qui ne savent pas la définir, c'est quelque chose qui peut toucher à l'écriture. Donc, il a fallu que je parte pour pouvoir raconter. Il faut de la distance dans le temps et dans la géographie. Le poids, c'est un... Je le disais, je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai retrouvé... À la fin, j'ai pleuré et je me suis dit, c'est bon. Maintenant, je sais.
À la fin de l'écriture,
oui.
Vous avez pleuré ?
Je me dis, c'est parce que la conclusion de Dob, elle me convainc. Cela fait 1000 ans que les morts de ce pays nous répètent de vivre, non de les imiter. Je ne sais pas pour beaucoup les gens qui changent leur vie parce qu'ils ont rencontré la personne ou parce qu'ils ont lu un grand livre. Moi, ça m'arrive avec des phrases. Et cette phrase-là, quand je l'ai conçue, c'est le noyau du roman, c'est que les morts sont morts pour que nous vivions 2 fois, 3 fois, 10 fois. Les morts ne nous demandent pas de les imiter. Au contraire, c'est eux qui se bousculent dans nos rêves et dans nos habitudes, dans nos façons de choisir les couleurs des chemises pour vivre. Parce que la vie est magnifique et on ne la quitte pas facilement. C'est un immense appartement très bien meublé, parfois, avec des soucis de copropriété, souvent, mais qu'on ne quitte pas facilement. Et donc, l'idée que les morts, pour un Algérien, que les morts ne me culpabilisent pas, alors que je suis né dans un pays qui m'a culpabilisé de d'être un déserteur parce que je suis né trop tard. De ne pas avoir... Parce que quand on n'a pas fait la guerre d'indépendance, à la limite, on est vraiment un passager clandestin. C'est-à-dire, on est venu trop tard, on a déserté, on n'a pas droit à la propriété profonde et sensuelle du pays, et on est quelque part de trop. Et tout le monde vous le répète depuis que vous avez des chaussures parce qu'on s'est battu, vous avez de l'eau au robinet parce qu'on s'est battu, vous avez ceci parce qu'on s'est battu, etc. Et nous, nous sommes les indus occupants d'un pays où nous sommes dépossédés. Mmh. Et c'est très étrange. Ceux-là même qui disaient à la France qu'elle les a dépossédés, nous dépossant nous par la suite. Mais ce sont les cycles de la vie. Donc, je grandis avec la culpabilité. Toute la vie était comme un jouet volé. Et d'un coup, j'écris et je comprends. Je comprends que mon père et que mon grand-père et tous les gens qui sont morts, ben ils me disent, vis, mais vis pour nous, fais-le, achète, sois riche, sois quelqu'un d'intelligent, sois quelqu'un d'écouté, sois quelqu'un de brillant, choisis la plus belle des langues pour dire les mots aux gens les plus importants dans ta vie, parce que ça va passer et que le feu va s'éteindre et le monde va continuer sans nous. Et donc, il faut le peupler. Mmh. Et à partir du moment où j'ai disculpabilisé ma vie, alors, croyez-moi, j'ai l'impression de la vivre pour la première fois. Je me sens profondément dans la légitimité la plus profonde de vivre. Et je commence à tirer les premières conclusions indépendantes. Un ami m'a écrit une phrase qui m'a bouleversé parce que je me suis dit, il m'a compris. Beaucoup de gens ne comprennent pas mes positions politiques en Algérie. Mais il m'a dit, les gens ne te comprennent pas parce que tu es le premier décolonisé de l'histoire.
Le premier indépendant. J'ai cru que j'étais à demi morte alors que je devais vivre pour deux. Là, la très belle phrase, l'une des très belles phrases d'Aube. On a parlé de poids du livre. Vous avez réévoqué ce poids de cette première guerre d'indépendance. Voici ce qu'on peut lire, page 116. Cette guerre contre la France semble être une dame âgée très riche et très sourcilleuse de ses bijoux. Je l'ai bien détestée depuis mon égorgement raté. Je l'ai haïe, car elle est comme une sœur aînée qui prend toute la place. Cette guerre se comporte comme un enfant unique qui s'empare de toutes les commémorations. Elle s'accapare le blanc, le rouge, le vert, les lampes et les foules, les parades militaires. Et nous, les survivants de cette guerre civile, rien. On ne nous accorde pas une seule date nationale, pas un seul souvenir à s'accrocher au cou. Nous avons à peine droit aux cicatrices. Et ça continue. Effectivement, vous l'exprimez très fort. Je voudrais vous entendre aussi sur ce fait, parce qu'on a peut-être un peu tendance à l'oublier, que ces événements ont eu lieu avant Internet, avant les téléphones portables, avant les réseaux sociaux, et que l'oubli et l'absence de traces et d'images est aussi renforcée par ça, contrairement au conflit syrien, par exemple, qui, en son temps et en direct, était parmi les plus documentés de l'histoire, puisqu'on avait des archives qui étaient produites en temps réel.
En fait, les archives existent, plus ou moins. Il y a d'abord les islamistes en armes aimaient se filmer. C'était un peu les proto-Daesh. Cette mise en scène de soi, elle fait partie de la propagande. Donc, ça existe. Vous pouvez trouver sur le net des images très, très floues, etc. Les images d'archives de l'État, enfin, du gouvernement ou du régime, on l'appellera comme on veut, existent aussi. Elles ont été, par exemple, diffusées une seule fois en Algérie. C'est en 2014, quand le quatrième mandat commençait à être contesté, eh ben, ils ont pris la peine de diffuser à l'heure de grande écoute, sur la télévision, des images d'une horreur absolue. Parce qu'il fallait électrochoquer l'opinion pour dire « Attention, si vous faites, vous sortez du rang, voici ce qui arrivera. » Donc les images existent quelque part, je suis sûr. Mais il est vrai que dans nos vies quotidiennes, il n'y a pas. Cette guerre n'a pas existé, elle n'a pas le droit à la parole, etc. Moi, Je ne dis pas que ce roman est le premier, encore une fois. Il y a eu 3 ou 4 romans qui sont bons. Il y a eu des 4 ou 5 films, produits d'ailleurs en France. Mais 250 000 méritent 250 000 romans, 250 000 livres, 250 000 collectes de témoignages. Et il faut réparer le sens du monde, etc. Mais ce n'est pas, encore une fois, une histoire algérienne. C'est une histoire face à la mémoire et l'oubli. Et surtout une histoire face au déni. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Et j'ai quelque part, quand j'ai fini, parce qu'on ne pense pas à ses engagements quand on écrit, on pense avant ou après. Si on réfléchit trop en écrivant, ça tombe. Mais après, je me suis dit, c'est une histoire qui concerne les Français, les Anglais, les Talibans, partout, parce que c'est une histoire sur la liberté. Et qu'est-ce qu'il en reste lorsqu'on accepte que des fascismes s'installent et dictent des lois? Donc, c'est un peu ça aussi.
Le mot de réparation est important. Il est évidemment à l'œuvre dans votre projet, dans votre ambition d'écrivain. Et quand j'ai relu Meursault contre enquête, je suis tombée sur cette phrase qui est là dès la première page. Donc le narrateur dit qu'il va écrire l'histoire de son frère Moussa, puisque c'est un anonyme qui n'a même pas eu le temps d'avoir un prénom. C'est la première page de votre premier roman, finalement. Et c'est finalement une autre forme d'écriture pour ces gens qui n'ont quasiment pas eu le temps d'avoir des prénoms, en tout cas dans l'histoire, dans les archives, dans ce qu'on a pu laisser comme trace.
C'est par la suite que j'ai remarqué que c'est vrai, c'est une tendance. J'aime imaginer les voix de ceux qui ont perdu la voix. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par culpabilité marxiste, sociale. Je suis né dans un milieu qui n'écrit pas, qui ne lit pas, et peut-être je me sens investi de cette mission d'écrire, de parler. Bon, je me raconte une histoire, mais comme nous tous. Et peut-être aussi que la langue ne devient un véritable enjeu que lorsqu'on prend la parole pour la première fois ou la dernière fois. Et peut-être aussi que dans un pays qui fétichise l'histoire, moi j'ai besoin de meubler la mémoire aussi, mais pas d'y habiter. J'aime pas. Je n'aime pas. Je suis un homme du présent. Peut-être aussi que, je sais pas, ça me paraît beaucoup plus, l'enjeu est beaucoup plus important. Quelqu'un qui parle pour la première fois, ou quelqu'un qui parle parce qu'on l'a oublié, ou quelqu'un qui prend la parole parce que justement il devait la prendre. Ça me donne l'impression que de justifier ce métier d'écrire. Parce que je me dis, sinon, moi, je suis qui pour écrire? Il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi, beaucoup plus qui maîtrisent la langue beaucoup mieux que moi, alors que moi, j'arrive avec une petite valise linguistique que j'ai confectionnée moi-même, avec des sens de mots qui n'existent pas dans le dictionnaire. Je l'ai vérifié à 15 ans. Il y a beaucoup de mots que je possédais et que le dictionnaire n'en avait jamais entendu parler. C'est un peu ça, le style. Le style, c'est s'habiller comme on veut dans un magasin que le propriétaire a fermé en vous oubliant dedans. Donc, c'est un peu ça. Le style, c'est posséder cette langue, l'embrasser, en faire ce qu'on veut. Et puis arrive le premier Robert que mon père m'a offert. Et là, c'était... Il y a eu 2 grands moments. J'aime bien la grandiloquence du langage philosophique. Rupture épistémologique. La première fois, mon père m'a acheté un dictionnaire. C'était à 15 ans, je pense, ou 14 ans, et la première fois où j'ai vu un Français vivant. Parce que tous les Français étaient morts, c'était des livres ou c'était le cimetière dans le village. Donc la première fois où j'ai vu un Français vivant parler le français, c'était aussi un moment de rupture, parce que je me suis dit, ils existent. J'espère que c'est réciproque.
Vous parlez de la langue et des mots, évidemment, c'est votre matière première, mais... vous évoquez le silence, et je crois que c'est la première fois que je lis quelque chose comme ça. La place du silence dans la guerre. Vous dites qu'on a souvent une représentation un peu fausse quand on a eu la chance de vivre dans des pays qui n'ont pas connu la guerre. En tout cas, des générations, d'appartenir à des générations qui n'ont pas traversé ça. Mais vous dites qu'entre 2 attentats, entre 2 obus parfois, ce qui est marquant, c'est le silence qui peut s'installer pendant 3, 4, plusieurs jours parfois. Est-ce que dans votre écriture, il y a aussi ça, il y a aussi donc une obsession de la recherche du mot juste, de les balancer, de les peser chacun, mais aussi des moments de silence, de laisser le texte, de laisser vos silences se déposer et de leur faire de la place aussi de temps en temps dans l'histoire que vous racontez?
Je pense que tous les écrivains vous diront qu'il faut traiter le silence comme un alphabet. Il faut laisser de la place pour le lecteur. Beaucoup de gens d'entre vous connaissent cette phrase. Il faut laisser le texte respirer, il faut laisser le texte, etc. Non, le silence est important pour moi. Sauf que moi, je suis dans une posture d'imposture. C'est-à-dire que, contrairement à ce que on dit c'est-à-dire je choisis des mots et je réfléchis. Non. C'est pas un jeu de mots. Il fait rire, mais il est réel. Je ne suis pas quelqu'un d'intelligent quand je réfléchis. C'est-à-dire, si je réfléchis trop ma phrase, pas autant aller vivre, prendre un verre, je veux dire. Parce que la phrase trop réfléchie, pour moi, il y a des écrivains qui sont fous du mot juste. Moi, c'est la sensation juste. J'ai une allergie profonde envers le cliché, la sédimentation du langage. J'aime déplier. La métaphore s'use avec le temps. Dire à une femme, à un certain moment, tu es belle comme la lune, ça signifie rien pour à peu près 400 personnes, sauf pour la personne qui est transie. Et donc, il faut renouveler la métaphore à chaque fois. Il faut que le langage soit revisité, comme on dit, mais avec son propre corps. Et donc, j'aime déplier. Et au début, j'ai remarqué que non seulement je m'amuse quand j'écris, et que dans les chroniques, les gens s'amusaient en lisant, pas s'amuser au sens ludique, mais un ludisme intelligent. Et je me suis dit, peut-être c'est ça le style. Le style, c'est déplier le langage pour qu'il soit comme pour la première fois. Comme pour la première fois. Et à partir de ce moment-là, si on a des belles métaphores, on regarde le monde comme pour la première fois. Et ce que nous cherchons peut-être, c'est ce moment d'innocence, où on a regardé le monde comme pour la première fois. Et il faut trouver l'équilibre entre l'innocence et la gravité. Regarder le monde comme la première fois et le regarder comme si on le regardait pour la dernière fois. Et comme ça, entre les deux moments, se dégage la valeur de la vie, la valeur du présent. Et on sait qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on a. Et on fait la colonne entre les pertes et les bénéfices. Et on sait que chaque jour, c'est à nous, et que le passé, c'est pas à nous, et que l'avenir, c'est pas à nous, etc. Au fait, c'est comme ça que je vois la langue. Je la vois comme une aventure corporelle. Je la vois comme... Donc, je ne pèse pas les mots. J'écris d'un coup, c'est mais je sens quand je commence à m'ennuyer. Et dès que je commence à m'ennuyer, je bifurque et je vais, comme maintenant avec la salle, je sens quand l'ennui commencera à peser. Je le sens. Et donc,
vous me prévenez du coup?
Non, il faut prévenir parce qu'il faut à la fois créer de la complicité, faire rire de temps en temps pour reposer le cerveau et aussi donner de l'émotion pour que le dialogue se noue. Je peux parler des heures comme ça, et sans question, et sans fourneau de réponse.
Donc, je vous lis trois lignes pour prolonger, illustrer cette idée de silence. J'en viens à ma dernière question ensuite, et vous savez qu'à Manosque, vous avez un peu de temps pour interpeller nos invités, donc un micro sera à votre disposition dans quelques minutes. Juste ces trois lignes-là qui disent le silence. Le 31 décembre, les groupes se répartirent en 10 brigades et égorgèrent en pleine nuit d'abord les chiens, les chevaux, les animaux de toutes sortes, même les poules, pour pouvoir avancer dans un silence parfait. Voilà le genre de phrases qui saisissent. On a compris que vous n'auriez pas pu écrire ce roman en Algérie. Vous êtes parti, vous êtes en France depuis une année à peu près. Mais est-ce que votre roman peut être lu là-bas?
Je reçois le plus beau des hommages. Je suis extrêmement piraté. Donc, le roman se lit. Bon, il ne sera pas édité officiellement, enfin, pas édité réellement. J'espère qu'il sera vendu, pas bloqué aux douanes, etc. Mais ce n'est pas uniquement mon cas. Je veux dire, il ne faut pas que je me présente comme le martyr de la littérature, etc. etc. Mais c'est ainsi. Mes amis là-bas me disent qu'il est piraté. Et bon, c'est un peu malheureux pour l'édition et pour la culture dans le monde qu'on appelle arabe. Parce que tant qu'on ne respecte pas les droits d'auteur, on n'aura pas des auteurs. Parce que ces auteurs-là crèveront de faim avant. Et que l'idée de l'open source et que le droit d'accès à la culture gratuitement est dangereux. Et ça, c'est un peu malheureux pour les libraires qui auraient pu vendre ce livre, pour les éditeurs, pour les imprimeurs, pour les diffuseurs. Toute cette industrie, elle est bon, je ne peux pas dire que je suis content de voir tout ça. Mais le livre, il est extrêmement piraté, il se lit et c'est un peu le propre de notre époque.
L'émotion.
Et il est aussi beaucoup commenté, il est critiqué, je le comprends. Il est diffamé et il est commenté sans être lu, ce qui est le propre de notre époque. Et ainsi de suite. Il connaît un peu cette aventure du livre actuellement. C'est écrire un livre, c'est slalomer entre la réputation, la réalité, fake news, la post-vérité, etc. C'est une époque.
Quelles sont les critiques que vous avez reçues et que vous comprenez?
Il y a les critiques, mais je ne sais plus si on est à une époque de critiques. Il y a des critiques pour me dire... il y a des réactions épidermiques. C'est notre guerre, pourquoi tu en parles? ou toi tu veux gagner de l'argent avec cette guerre-là, ou il fallait pas leur raconter là-bas, de l'autre côté, ou il y a la guerre de décolonisation qui est plus importante, parce que comme me disait quelqu'un, quand un musulman tue un musulman, ça égale à zéro, c'est-à-dire ça s'annule. On n'en parle pas comme une tragédie, c'est dû brutalement, mais c'est la réalité. Et donc il y a ça. Et puis les procès en traîtrise. Parce que je suis en France, parce que je parle en français, parce que je dis ce que je pense, parce que je refais pas la guerre à la France, parce que j'aime la culture française, et parce que je ne définis pas mon algéranité sur la base d'être anti-français. Parce que je suis extrêmement conscient de ma souveraineté affective. Je me sens justifié dans mon existence sans avoir besoin de m'opposer à autrui pour me définir. Et tout cela, et en plus parce que je suis du monde rural, parce que je suis bilingue, parce que je lis en arabe, tout cela fait de vous une sorte de singularité qui se promène, parce que je ne suis pas passé par les circuits habituels, vous savez, être un décolonial de gauche, etc. Enfin, tout ça, parce que je dis que la langue française, c'est une langue intime, érotique, pour moi, parce que je dis que Descartes est une femme. Et tout ça fait que vous êtes une singularité. Et donc là où vous allez, vous n'êtes pas... Au fait, parce que je suis quelqu'un du présent. Et ça, j'ai l'impression que dans les conjugaisons politiques, je n'ai pas de place.
Oui, vous parliez du passé et du futur d'un côté, et vous êtes là, bien présent, sur cette place de Manosque. Le micro est à votre disposition. Vous êtes très nombreux, on ne pourra évidemment pas s'éterniser, mais on a un petit moment privilégié. C'est le moment de vous en saisir. C'est Maud, merci Maud, qui peut vous tendre le micro pour vos questions à Kamel Daoud.
Bonsoir. Bonsoir Kamel. Bonsoir Madame.
Bonsoir.
Au préalable, je dois vous dire que c'est Kamel Daoud que... Et je vous l'ai déjà dit, que je partage nombre de vos positions sur la société algérienne, notamment sur la gestion de la cité, sur le régionalisme, sur la liberté d'expression, sur les frères héréditaires qui perpétuent très opportunément les combats des martyrs. Vous êtes un décolonisé. Pardon, ça ne marche plus.
Si, si, on vous entend. On vous demande juste d'être un peu bref, mais on vous entend.
Bref, donnez-moi 3 minutes, s'il vous plaît. 3 minutes. Vous êtes un décolonisé. Il y en a des millions d'Algériens qui sont aussi des décolonisés. Ils le disent autrement. Maintenant, excusez-moi si je vais vous égratigner. C'est pour l'intérêt des échanges. Accordez-moi juste, comme je le disais, quelques minutes, s'il vous plaît, pour cette intervention que j'achèverai par une question, tête 2. Alors, comme vous le voyez, il y a un petit bout de papier que j'ai préparé parce que ce n'est pas évident. Nous sommes mercredi 25 septembre 2024. Quelle belle journée, quelle belle fin de journée. Et nous sommes à quelques mètres de la grande rue, la rue Giono, la rue à habiter Giono. Et nous sommes le 25 septembre, et vous avez fait référence à Faulkner. Faulkner est né le 25 septembre 1897. Il est mort en tombant de cheval le 5 ou le 6 juillet 1962, c'est-à-dire qu'il aurait pu connaître la mère de Fajr, Khadija. Monsieur Kamel Daoud, vous êtes journaliste et écrivain. Je ne vais pas jouer les rabat-joies ici, mais je tiens à dire un certain nombre de choses. Beaucoup parmi nous qui apprécions l'écrivain et l'auteur des rubriques dans le quotidien d'Oran. Dommage que vous ne parlez jamais de celui qui vous a donné la première plume. C'est Moussa, mon ami. Vous n'en avez jamais parlé, je ne vous ai jamais entendu parler de Simoussa, de détective. Bref, je ferme la parenthèse, c'est juste un... Il est mort, là, mais il mérite qu'on le cite de temps en temps. Il a été votre premier employeur.
Oui. On peut en venir à votre question, s'il vous plaît, monsieur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait parler. Donc, si vous voulez bien poser votre question, s'il vous plaît, monsieur.
Elle ne servirait à rien, la question. Ah. Elle ne servirait à rien.
Bon, alors si vous, est-ce que vous voulez la...
Non,
je ne vous empêche pas du tout. C'est juste qu'on est nombreux, du coup, je vous demande d'être concis, mais posez votre question, il y a de la place pour ça.
Mais non, elle ne rimerait à rien.
Très bien. Alors, donc, essayez de l'amener le plus précisément.
Je la pose quand même. Vous dites, mais elle est futile. Du coup, elle est futile. Elle est niaise. Enfin, je la pose quand même. Vous dites en page 121, le 31 décembre 1999, on allait changer de mois, on allait changer d'année, on allait changer de siècle. Changer de siècle. Et les correcteurs Gallimard n'ont rien vu. Comment peut-on dire que l'an 2000, on bascule du 20e au 21e siècle ?
Merci pour cette coquille relevée. Merci, monsieur. On vous a entendu. Merci. Peut-être que vous aurez l'occasion de prolonger votre échange. Est-ce que le micro peut circuler ? Oui, là, devant vous, s'il vous plaît.
Bonsoir. Alors, moi, j'ai deux questions à vous poser, si j'ai le temps. La première, c'est que votre livre se passe pendant la guerre civile. Donc, c'est une période qui était horrible pour les femmes. Est-ce que maintenant qu'il n'y a plus la guerre civile, leur condition est un peu plus et moins dramatique ?
Non.
Non. Okay.
Non. Parce que pour parler politiquement, je n'ai pas envie de m'enfermer dans le rôle politique, etc.
Oui, oui, oui.
Mais c'est qu'on est arrivé à une équation où les islamistes ont perdu militairement, mais ils ont gagné politiquement. C'est-à-dire qu'ils ont gagné sur les rites, sur l'habillement, sur la culture de tous les jours. Et la situation de la femme n'a pas bougé. Je vous raconte juste une anecdote rapidement. 2003, le massacre de l'Haïcha, sur Hassim Saoud, une zone pétrolière qui attire beaucoup de main-d'œuvre, et notamment des femmes qui viennent travailler, mais c'est des femmes seules, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas à quelqu'un, à un homme. Et là, un imam appelle à purifier les quartiers, et on les attaque. Il y a un très beau livre, ce n'est pas un roman, c'est un compte-rendu exact de ce qui s'est passé, qui est très peu édité ici, que ça peut, le titre c'est « Laissée pour morte », qui raconte, on est en 2003, c'est-à-dire on est déjà à 3 ans après la guerre. Les choses ne s'améliorent pas, pas uniquement en Algérie, soit en Syrie, soit en Irak, soit en Palestine, soit en Afghanistan, soit... Ça ne s'améliore pas, je n'ai pas l'impression que ça s'améliore. Et j'aurais voulu vous répondre autrement, mais non, les choses ne s'améliorent pas. On est en train de perdre de plus en plus de terrain.
Ok. Alors, ma deuxième question, dans ce qui se passe d'horrible dans votre livre, j'y ai trouvé de l'humour. Maya, tout à l'heure, a parlé du passage dans le salon de coiffure. Et vous avez dit que l'imam, ce qu'il avait dit, c'était vrai. Et moi, je vous pose la question, la coiffeuse, elle s'est vengée avec la femme de l'imam. Est-ce que ça, c'est fictif ou c'est vrai ?
La coiffeuse, c'est ?
Elle s'est vengée avec la femme de l'imam.
Oui.
Quand il vient chercher
c'est
sa
fictif,
facture.
C'est fictif, ça, je suppose.
Oui et non. Bon, je vais pas vous dire que je connais la femme de l'imam. Il y a des risques que je ne prends plus. Mais ce genre de, vous savez, on en discutait tout à l'heure en arrivant. C'est quand même drôle de voir comme il y a des siècles ailleurs. Par exemple, on a du moins à Oran que ce sont les islamistes, les barbus comme on dit, qui gardent la main sur le monopole de la lingerie féminine. C'est drôle, mais parce que d'abord ils ont le sens du commerce. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai toujours soupçonné l'excès de religion, de bigotisme. La nature humaine, c'est comme l'herbe qui repousse entre les plantes en ciment. On est ce qu'on est. On a beau prétendre être des dieux, se laver, s'émétoufler, etc., etc. On reste des êtres humains avec cet appel de la vie qui est en nous. Et donc, bon, tout ça pour vous dire à la fin que les islamistes ont gagné d'un point de vue politique, et de l'autre côté que le rapport qu'ils ont au sexe, à la femme, il est très ambigu, et cette ambiguïté est source de violence et de malaise pour eux, en règle générale. C'est ma petite théorie, je ne suis pas psychiatre ni psychanalyste, mais je suis un spécialiste de la mauvaise foi.
Oui, s'il vous plaît.
Au fond, au milieu, sur l'allée centrale.
Voilà. Il y a dans votre ouvrage plusieurs narrateurs en réalité qui se succèdent. On en a cité deux. Vous n'avez pas évoqué ce soir la terroriste elle-même qui, à un moment, raconte des choses tout à fait passionnantes. Mais vous ne spécifiez pas qui parle. Il nous faut toujours, à chaque chapitre, un petit moment pour savoir c'est qui est en train de parler. Ce qui fait naître, chez le lecteur en tout cas, une espèce de petit trouble, d'autant que les chapitres étant pas complètement chronologiques, quelquefois on est un peu perdu. Et je voudrais savoir si cette confusion que ça entraîne, c'est simplement une faiblesse du lecteur, ce que je suis prêt à admettre très bien, ou un désir plus ou moins conscient de l'auteur de faire part par petites touches d'une difficulté identitaire des Algériens, mais qui remonte à bien plus longtemps que ça, où les Algériens ne savent pas très, très bien qui ils sont du fait d'une histoire très complexe.
Non.
Et qu'elle paraîtrait comme ça.
Non. Enfin, vous employez le mot troublé. Est-ce qu'il y a... On ne réussit pas un engagement d'amour si on n'est pas troublant et troublé. Donc, non, c'est pas ça. C'est que l'enjeu profond de ce roman, c'est quand même le temps. Il y a des histoires, il y a des moments de rupture d'histoire collective ou individuelle où le temps s'arrête. Vous voyez, quand on subit un grand choc, le temps s'arrête. Et il met du temps pour redémarrer. Parfois un an, parfois deux ans, parfois dix ans, parfois jamais. Et on est enfermé dans un temps qui tourne. Autour de, parce que c'est le temps du trauma, comme on dit. Donc les événements se répètent d'une manière ou d'une autre. On écarquille les yeux et on voit quelque chose qui arrive pour la première fois. Mais on ferme les yeux et c'est la même scène qu'on a vécue. Et donc, j'ai l'impression que dans mon pays d'origine, il y a un attentat contre le temps. Il n'est pas passé. Il y a eu une guerre et on est resté à ce moment-là, à cette séquence-là. Mais ça correspond à ce qui se passe dans nos vies individuelles. Il y a des moments où le temps ne passe pas. Et l'enjeu, c'est d'accepter que le temps passe. C'est ça, la vie. La vie, ce que me disait ma grand-mère, c'est que quand la main gauche donne à la droite, ou quand la main droite donne à la gauche, c'est ça, la vie. C'est qu'il faut laisser passer les choses. Et dans un pays bâti sur le vétéranat, c'est-à-dire les vétérans, le récit de guerre, etc., le temps ne passe pas. Pour cette femme-là, le temps ne passe pas. Il est coincé à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai utilisé une formule exprès. Aïssa, quand il parle, il dit « je te parle de... » des événements du 33 décembre, 34 décembre, ces dates qui n'existent pas. Mais au fait, ce sont les dates de la douleur, les dates sur lesquelles on revient toute sa vie parfois. C'est ces jours dans une vie qui ne passe pas. Et on met toute une vie pour pouvoir accepter qu'il passe et qu'on puisse s'occuper du jour qui arrive plutôt que du jour qui ne passe pas. Et quelque part, dénouer une situation de douleur, c'est accepter que le temps passe. C'est aussi simple que ça. Accepter que l'on vive, que l'on transmette, qu'on ait de la filiation et qu'on laisse des choses en héritage et que l'on en va mourir. Et que cette mort n'est pas une dépossession, mais c'est juste de laisser de la place pour les autres. Et c'est un peu ça. J'ai toujours vécu ces histoires-là que j'écris comme des histoires du temps enfin mis sur rail pour avancer. Donc oui, c'est un trauma collectif algérien, c'est un trauma collectif ici, c'est un trauma collectif ailleurs, et même politique. Les gens qui vous disent qu'avant c'était mieux, s'ils veulent habiter une maison qui n'existe plus. Et c'est un peu ça aussi. Notre rapport au temps nous détermine. Et il fait de nous soit des gens courageux, donc on mise tout, on relance les dés, soit des gens lâches, et là on thésaurise et on s'enferme pour que le temps ne passe pas. Et le paradoxe, c'est que c'est là où il passe, et on le perd. C'est un peu ça.
Alors, je voudrais juste faire un petit témoignage. J'ai été enseignante, j'ai été professeure de français dans un lycée de jeunes filles algériennes en 75. Et toutes ces femmes, je suis pas encore en relation avec toutes, mais avec quelques-unes. Je crois que je vais
message privé.
Message privé, voilà. Leur parler un petit peu de votre livre pour savoir un petit peu ce qui a été vécu par elles. De cette période entre 90 et 2000. Nous sommes allés en 90 en Algérie. On sentait le début de cette difficulté, mais bon, on n'a pas continué à vivre là-bas. Et voilà, donc je pense que je vais avoir un petit contact comme ça avec certaines de mes anciennes élèves de ce lycée de Mostaganem, de jeunes filles. Voilà.
D'accord, je connais bien le lycée parce que je suis Mostaganem.
Voilà. Ben écoutez, on y était peut-être. Non, je ne sais pas si vous étiez déjà née quand j'étais prof là-bas.
70, oui, en 1970.
Moi, c'était en 75, donc c'était une période vraiment fabuleuse puisque c'était au moment de Boumédienne. Et on avait l'impression que ces jeunes filles, elles étaient dans une espérance d'un nouveau monde, d'une liberté. Elles me disaient, c'est les femmes qui ont aidé à gagner l'indépendance. Il faut absolument qu'elles continuent à être libres. Et voilà. Et puis, ben non, il y en a une qui s'est suicidée, enfin qui a fait une tentative de suicide parce que elle allait être mariée, enfermée. Voilà. Donc déjà à l'époque, il y avait des déceptions aussi pour certaines. Mais bon, je vais essayer de creuser un petit peu de ce côté-là, ce qu'elles sont devenues pendant toute cette période-là.
Merci. Voilà.
Et puis merci beaucoup parce que vraiment votre livre, je l'ai commencé, hein, mais je vais le lire.
Merci. Dernière question.
Merci. Une dernière question. On a encore un petit peu de temps, si on a
eu. J'ai une question très brève à poser.
Merci.
J'adore les questions brèves parce qu'elles me permettent de parler longuement.
Je vous précise que je n'ai pas encore lu votre livre. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi le prénom Aube. Et deuxième question, je me permets d'en poser deux. Est-ce que vous n'avez pas un petit regret de ne pas l'avoir appelé Aurore ?
Oui, bon. Aube, non, parce que pour des raisons très simples, j'aime bien ce moment-là. C'est un moment de départ. Je suis un villageois. Et vous savez, l'aube, c'est l'heure de départ vers la ville. Quand on est étudiant, quand on va au marché, etc. C'est une heure dure, difficile, parce qu'il faut s'arracher au sommeil. Mais ce n'est pas ça. Durant la guerre civile, c'est quand même l'heure pendant laquelle on attaquait les civils. Et en même temps, c'est l'heure du début du jour. Il y a des moments ambigus. C'est un peu comme dans la vie. C'est un peu les Janus. Ce sont les deux choses de la vie et de la mort. J'aime bien cette heure. Franchement, elle est... Comment dire ? Elle inspire. Elle est signifiante. Elle est symbolique. Enfin, elle est grave. Et puis, c'est moi qui écris l'histoire, donc je choisis les prénoms.
Voilà, pour terminer, on aurait pu lire encore un extrait ou citer Camus. J'avais envie de terminer sur une phrase que j'ai entendue dans l'une des émissions qui est consacrée à cette décennie noire sur France Culture, Culture Monde. Le témoignage d'un homme algérien qui disait « On ne peut pas tourner une page si on ne l'a pas lue ». Bouteflika a voulu la déchirer. On va vous remercier, Kamel Daoud, de l'avoir écrite. Merci beaucoup et bonne lecture. Bonne
merci.
Soirée.
Merci à vous. Merci. Et merci à vous tous. Merci.
C'est Ouri chez... J'ai du micro, oui. C'est donc Ouri chez Gallimard. Kamel Daoud est en signature grâce à la présence de la librairie L'Arbousier, juste derrière la scène. Merci.